Bonjour
vous
Fabrice.
Vous nous emmenez aujourd'hui dans une des villes de la Mittel Europa avec une grande histoire.
Et oui, Vienne. C'est l'histoire de Vienne. J'ai été élevé à Vienne, métropole deux fois millénaire, la capitale de tant de nations qu'elle fut le terrain idéal pour une culture commune. Stefan Zweig. D'histoire. Comme toutes les grandes capitales européennes, Vienne a commencé par être le carrefour de deux routes. Celle qui allait de l'est à l'ouest de l'Europe en empruntant le Danube et la route dite de l'Ambre jaune qui allait du nord au sud, de la Baltique à l'Italie, en passant par le col du Semmering. Carrefour du commerce, Vienne fut aussi pour son malheur celui de tous les conquérants. Il y a 18 siècles, quand la ville n'était encore qu'une petite forteresse, l'empereur Marc Aurèle y trouva la mort en défendant Rome contre les barbares. Puis Vienne a subi les assauts des Hongrois, des Turcs de Soliman, de la grande armée de Napoléon, avant d'être annexée par Hitler en 1938. Enfin, ce fut la guerre, les bombardements et l'occupation soviétique, jusqu'à ce qu'en 1955, le traité du Belvédère et le départ de l'armée rouge permettent à Vienne de redevenir la capitale d'un État indépendant.
Ici Philippe Gray qui vous parle de Vienne. Très tôt dans la matinée, une foule énorme s'est massée sur le passage que prendront tout à l'heure les délégations des quatre puissances qui vont se rendre au château du Belvédère, apporter au peuple autrichien une liberté qu'il attendait depuis bientôt 10 ans. Il n'est pas une maison ou un monument de Vienne qui ne soit pavoisé aux couleurs autrichiennes, rouge, blanc, rouge. C'est sur la place Staline que la foule est la plus dense. On peut apercevoir, de la place que j'occupe, la façade de style baroque italien du château du Belvédère où va se dérouler la cérémonie de la signature du traité de paix autrichien.
Fédéral des Affaires étrangères, messieurs, à cette heure historique, je salue à mon tour, au nom de la France, l'Autriche libre, indépendante et souveraine.
Jean Descartes, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre Antoine Pinet, qui était ministre des Affaires étrangères français et signataire en 1955 d'un traité qu'on a complètement oublié, le traité du Belvédère. Vous rappelez que pendant 10 ans avant ce traité, vous le rappelez dans votre livre, Le Roman de Vienne, que cette ville, comme Berlin, a été occupée et divisée en 4.
Oui, Antoine Pinet avait une délégation spéciale du gouvernement français. Il n'était pas de ministre des Affaires étrangères en titre. Oui, on oublie, et on me l'a souvent fait remarquer, que la guerre, d'une certaine façon, s'est prolongée à Vienne, comme à Berlin, comme en Allemagne et comme en Autriche, avec cette occupation tripartite, quadripartite, dont on verra le plus parfait exemple avec le film Le Troisième Homme, n'est-ce pas ? Donc, en fait, lorsque les Autrichiens réfléchissent, ceux d'une certaine génération, ils disent, pour nous, la libération, entre guillemets, c'est 1955. À ce moment-là, l'Autriche redevient une puissance indépendante, la République fédérale autrichienne. On peut dire que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale réellement, mais c'est le début de la guerre froide.
Mais c'était quand même le dernier événement important, en tout cas, de l'histoire d'une ville vieille, vous le rappelez aussi, de 2000 ans. Elle est née, elle existait déjà, c'était une toute petite forteresse, mais à l'époque romaine, et elle s'appelait Vindobona.
Hein. Oui, les légions de Marc Aurèle campaient tout à côté de ces collines qui montent à peu près à 300 mètres, et Marc Aurèle, l'empereur, est mort peu... je dirais pas loin du Danube. Et il y a une autre chose plus positive, plus joyeuse, qui est importante, c'est que les légionnaires avaient eu l'autorisation de l'empereur de cultiver la vigne. Mmh. Et toute la tradition du vin viennois, avec tout ce que ça comporte, jusque dans l'opérette, la gaieté, vient des Romains.
Et le nom, Vindobona,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
Alors cette ville, quand même, ne survivra pas aux grandes invasions plus tard. Elle réapparaîtra au 8e siècle avec d'ailleurs le nom qu'elle porte aujourd'hui, le nom de Vienne.
Oui, à partir d'une petite rivière.
Alors elle n'est au début que la capitale d'un duché. Hein.
C'est un duché, le duché d'Autriche, qui est un personnage évidemment considérable, parce que l'Autriche va faire partie de cet ensemble étonnant qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui, pour simplifier, va être très souvent dominé par des personnages considérables, et en particulier les Habsbourg. Mais ça, c'est pour simplifier. Et j'en profite pour dire aux auditeurs qu'il faut le savoir, on ne peut pas parler d'Empire d'Autriche à cette époque. Il faudra attendre la période napoléonienne. Il y a duché d'Autriche et il y a la maison de Habsbourg qui devient de Habsbourg-Lorraine lorsque l'impératrice Marie-Thérèse épouse le duc de Lorraine.
Les Habsbourg qui vont défendre Vienne contre d'abord les Hongrois, hein, qui ont été une
oui,
menace pendant longtemps.
Car en fait, ce qui sera Budapest et qu'on appelle Offen au temps des Romains et ensuite la colline de Buda, tout ça c'est à moins de 300 kilomètres, comme Prague. On est dans à l'un des angles du triangle doré de l'Europe centrale, de la Mitteleuropa. Donc les tentatives d'invasion dans un sens et dans l'autre vont jouer beaucoup, mais enfin il faut dire que Vienne est beaucoup plus sollicitée que Prague ou Budapest. Et effectivement, il y aura une occupation hongroise de la première partie de la Hofburg, le palais impérial.
Avant qu'au XVIe siècle apparaisse un nouveau danger qui va faire de Vienne le rempart du christianisme contre ses armées venues du sud de l'Europe jusqu'au pied des remparts de Vienne.
Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique, Soliman le Magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Dans son infinie miséricorde ne veut pas vous détruire. Il demande simplement que tu lui remettes les clés de la forteresse.
Ta lumière resplendira sur la terre pour la gloire éternelle de l'Empire et de...
Alors les Turcs vont arriver jusqu'aux portes de Vienne à deux reprises, vous le rappelez, Jean Descartes, d'abord avec Soliman en 1529, puis il va être repoussé. Et alors beaucoup plus grave encore, le siège très long fait par les Turcs en 1683. Ça, c'était la menace la plus sérieuse.
Car il faut bien dire que depuis 1453, depuis la chute de Constantinople, l'Europe chrétienne tremble devant le péril ottoman. Et la montée progressive selon un axe nord-ouest des troupes ottomanes, évidemment, est une menace et Vienne est censée jouer le rôle de rempart. Alors, en 1683, c'est une armée de plus de 100 000 hommes qui remonte via Belgrade et qui va assiéger vraiment, littéralement, la ville de Vienne et il va s'en falloir de peu. En fait, l'organisation turque ottomane n'était pas très très au point. Elle était impressionnante mais encombrée. Il y avait un harem, il y avait les dromadaires, il y avait des fontaines mobiles. Enfin, c'était un Orient fascinant. D'ailleurs, que Mozart va retrouver, n'est-ce pas, avec des turqueries et l'enlèvement au sérail. Mais les Viennois, encore aujourd'hui, je dirais, disent nous savons ce qu'est le péril ottoman, pour ne pas parler de la Turquie. Alors, les deux sièges ont laissé de façon différente un bon souvenir. Le premier a laissé le croissant, parce que les boulangers de Vienne qui travaillaient la nuit à leur four, à l'aube, ont entendu des sapeurs qui étaient en train de creuser les bords du Danube, et ils ont alerté la garde impériale. Et donc, en souvenir, l'empereur...
Le croissant que l'on mange, hein,
le croissant
que l'on mange,
leur a laissé le droit de faire une pâtisserie, de confectionner une pâtisserie qui aurait la forme du croissant. Et alors, en 1683, et ça c'est encore plus intéressant parce que ça va très bien avec, c'est l'arrivée du café, parce qu'on a cru d'abord que c'était une nourriture pour les dromadaires et pour les chameaux. Et ces sacs de café ont pris une valeur fantastique. Quelqu'un connaissait le procédé de torréfaction et le premier café viennois, qui est une institution, date précisément de 1683.
Alors, après ce péril, une fois ce péril écarté, il y en aura d'autres, d'ailleurs on le verra, il va y avoir une impératrice qui a très profondément marqué l'histoire de Vienne, Jean Descartes, c'est Marie-Thérèse.
Un personnage considérable. Il faut dire que c'est l'un des deux personnages de l'histoire devant le tombeau desquels Napoléon se soit découvert, dans la crypte des Capucins, l'impératrice Marie-Thérèse, qui était donc la fille de l'empereur Charles VI et qui a dû s'imposer comme femme, comme si elle était un homme, n'est-ce pas ? Et qui a dû être consacrée et comme roi, entre guillemets, de Bohême, roi de Hongrie, et s'imposer grâce à son chancelier Kaunitz, qui a été une femme extraordinaire et qui a construit la Vienne, on va dire, qu'on voit encore à l'intérieur avant la Vienne 1900, parce que c'est ça qui est important, qui va donner par exemple au château de Schönbrunn son allure définitive,
la résidence avec cette d'été
couleur, voilà la résidence, le Versailles autrichien, avec cette couleur jaune qu'on appellera dans toute l'Europe centrale le jaune Marie-Thérèse.
Alors elle va aussi, alors elle va être très dure, je crois que c'est elle qui chasse une communauté très importante à Vienne et qu'on ne retrouvera que plus tard au 19e, qui est la communauté juive, très antisémite, Marie-Thérèse.
Absolument, et qui se méfie aussi des protestants, parce que Vienne a été une capitale protestante, on l'oublie aussi aujourd'hui, oui. Elle se méfie du commerce, des affaires douteuses, mais elle se méfie aussi des jésuites, elle se méfie de tout. Contre-pouvoir à sa puissance. Il faut tout de même rappeler que sa stratégie personnelle, avec ses 16 enfants, est de faire des beaux mariages, et l'une de ses filles, c'est Marie-Antoinette. Mmh. Donc, c'est un personnage très important, intelligent, qui travaille beaucoup, qui s'amuse, qui danse, qui a un appétit tel que son médecin s'installe à côté d'elle, et la voyant ingurgiter des quantités de victuailles de cochonaille extraordinaires, met la même chose dans un seau et touille l'ensemble d'une façon peu ragoûtante en lui disant « Madame, voilà ce que votre majesté a dans l'estomac ». Ça n'a pas eu d'ailleurs beaucoup d'effet.
Alors une impératrice, vous le disiez, qui aime la musique, ce sera aussi le cas de son fils et successeur, enfin de son successeur, Joseph II, qui accueille à Vienne tout ce que l'Europe compte de grands musiciens.
Je trouve fort intéressante l'idée de retenir Mozart à Vienne, majesté.
Je veux voir ce jeune homme. Chambellan, préparez-lui un agréable accueil.
Ah, Mozart.
Majesté.
Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra.
Majesté.
En définitive, avons-nous tranché pour l'allemand ou l'italien?
Majesté, vous choisissez la langue, et moi je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque.
Bon, il en fera ainsi. Livret allemand.
Mon cher père bien-aimé, tu m'as toujours dit que Vienne était la ville de la musique. Conquérir Vienne, c'est conquérir l'Europe. Et avec ma femme, je le peux. Un jour prochain, quand je serai bien riche, tu viendras vivre avec nous et nous serons tellement heureux.
C'est l'enlèvement au sérail dont vous parliez tout à l'heure, Jean Descartes. Mozart né à Salzbourg, mais qui s'est surtout fait connaître à Vienne. Vienne qui, pendant plus de deux siècles, a été vraiment la capitale européenne de la musique et la ville de naissance ou d'adoption, pour ce qui concerne Mozart, des grands musiciens.
Oui, il faut rappeler d'ailleurs que les Habsbourg sont eux-mêmes très musiciens. Ils ont fait venir les premiers opéras inventés par Monteverdi, les opéras d'Italie, qui ont franchi les Alpes. Et puis l'inventeur de la musique allemande, le rénovateur Gluck, s'est produit à Vienne. Et l'empereur Joseph II lui-même disait « Les affaires de l'État ne sont pas aussi pressées que je ne puisse faire une heure de flûte chaque jour. » Donc on a des gens éclairés, on va dire des souverains éclairés, la musique, et ça va être la capitale. Je dirais de toutes les musiques. C'est même unique au monde parce qu'on a tous les genres de musique et encore aujourd'hui.
Il y aura quelque chose qui s'appellera la valse, on y reviendra, mais il y avait Beethoven dont on oublie qu'il est mort.
Beethoven
à Vienne.
C'est sa ville d'adoption.
Et plus tard, il y aura Schubert, Johann Strauss, père et fils, Bruckner, Mahler, Schoenberg. Mais alors, une ville qui reste, malgré sa musique et malgré ses talents de musicien, menacée et même occupée par Napoléon. Lui, il y est arrivé à deux reprises, Jean Descartes.
Oui, parce que la guerre qui avait commencé d'ailleurs en 1792 par les armées de la Première République française, déclarant d'ailleurs les hostilités au roi de Bohême et de Hongrie, et la guerre arrive à Vienne, les fortifications vont beaucoup souffrir, c'était des fortifications contre les Turcs, il faut le rappeler, ce qui est l'exemple du Ring aujourd'hui, le grand boulevard circulaire.
Depuis qu'elles ont été détruites, c'est le Ring.
Voilà, alors Napoléon, pour lui, la maison d'Autriche est le vieil adversaire, n'est-ce pas, donc Vienne, c'est le symbole. Et il va établir son quartier général à Schönbrunn. Vienne va souffrir des Français.
Juste là, avant Austerlitz,
voilà,
et puis avant Austerlitz. reprise.
On trouve des boulets, n'est-ce pas? La fameuse cathédrale Saint-Étienne va souffrir des boulets de l'artillerie napoléonienne.
Et Napoléon, dont le destin va plus tard, en 1815, se jouer à Vienne, quand les quatre grands vainqueurs de la France vont se partager l'Europe au congrès, justement, de Vienne, et en présence du ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, Talleyrand.
Je quitterai Paris demain pour Vienne.
Son Excellence Lord Castlereagh, ambassadeur d'Angleterre, et Son Excellence Monsieur le Baron de Nesselrode, ambassadeur de Russie.
Son Excellence Monsieur le Baron de Humboldt, ambassadeur de Prusse.
Son Excellence le Prince de Metternich, grand chancelier de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Son Excellence le Prince de Bénévent, duc de Talleyrand-Périgord, ambassadeur de France.
Nous avons pour mission de reconstruire l'Europe. Et cette mission sacrée, nous la remplirons sans faillir.
Et c'est une des plus anciennes valses de Vienne, composée par Joseph Lanner, la valse de Schönbrunn. C'est un des endroits où s'est déroulé ce congrès de Vienne, dont le prince de Ligne disait « On a beaucoup dansé, le congrès ne marche pas, il danse ».
Il danse,
c'était,
oui, parce que
c'était un moment important dans l'histoire.
Les négociations ont duré très très longtemps, parce que c'était très compliqué. L'une des raisons est peut-être parce que le tsar Alexandre Ier de Russie était sourd. En tout cas, il était souvent absent, retenu par de belles créatures. Puis alors, il y a cet aspect cocasse tout de même. Pendant le congrès, c'est le débarquement à l'île d'Elbe qui remet tout en question. Alors la valse que nous venons d'entendre, qui s'appelle en totalité « Les gens de Schönbrunn », elle est de l'inventeur de la valse.
Oui, ça j'ai appris ça.
C'est très important, Joseph Lanner. Mais évidemment, c'est le père Strauss et ensuite son fils, dans des genres différents, si je puis dire, pour les spécialistes, qui vont magnifier et donner à la valse son ampleur, parce que Lanner n'avait pas la dimension d'un grand orchestre, mais c'est lui qui compose cette harmonie à trois temps, qui est sans doute originaire du sud, voilà, une danse paysanne de Styrie ou de Carinthie, c'est-à-dire du sud de l'Autriche. Et c'est le congrès de Vienne qui fait faire ses débuts mondains à la valse. Et c'est une innovation. Alors il faut bien considérer que c'est aussi une révolution des mœurs. Jusque-là, on ne faisait que s'effleurer. Il n'y avait pas de couple. La valse invente quelque chose de nouveau, c'est le duo de danseurs.
C'est presque obscène pour l'époque.
Oui, mais absolument, ça d'ailleurs n'a pas manqué de choquer les ligues de vertu. Et même Wagner se dit, alors qu'il est à la terrasse d'un café, mais où va-t-on ? C'est très intéressant parce que à ce moment-là, cette nouvelle forme de musique va s'identifier à la ville. Il n'y a plus qu'une seule valse au monde, c'est la valse viennoise.
Alors, dans une ville qui n'est plus la capitale du Saint-Empire romain germanique, il est tombé avec Napoléon en 1806, ce n'est plus que l'Empire d'Autriche, et puis alors un empire sous la main de fer d'un homme, on a entendu son nom, c'était Metternich, effectivement. C'est curieux, ça, ce contraste entre la valse, la danse, le bonheur de vivre dont vous parlez, mais, Jean Descartes, et en même temps ce régime très austère.
Très austère, mais il faut dire que la tournade de napoléonienne avait quand même fait beaucoup de dégâts. Alors Metternich avait été diplomate, il avait appris à connaître Napoléon, mais n'était pas tombé sous son charme. Donc il a très très bien manœuvré. Et il faut sauver l'Autriche, et je rappelle tout de même que le fils de Napoléon va être prisonnier, n'est-ce pas, le duc de Reichstadt, l'Aiglon, est à Schönbrunn. C'est donc une revanche extraordinaire des Autrichiens. L'Autriche dicte sa loi à l'Europe jusqu'en 1848. Et ça sera l'époque Biedermeier, celle du confort bourgeois, des petits salons. C'est Schubert aussi qui va triompher. La musique devient un peu plus intime. Elle est non seulement dans les cafés, dans des salles où il y a jusqu'à 10 000 couples sur une population de 200 000 personnes. C'est extraordinaire. Mais aussi pour 15 personnes.
Et dans une ville qui change beaucoup à ce moment-là, elle accueille énormément de gens, de peuples, d'ailleurs de l'Empire, qui va devenir l'Empire austro-hongrois. C'est aussi une ville qui se révolte en 1848, grand moment aussi.
Ah oui, contre l'absolutisme et l'immobilisme, ça en effet. Et d'ailleurs, François-Joseph n'a pas pu monter sur le trône à Vienne. Il a dû rester en dehors tellement la monarchie vacillait. Il avait 18 ans. La révolution à Vienne a été très forte. Elle a chassé Metternich. On en avait assez, mais on était peut-être un peu ingrat parce qu'on avait tout de même eu très peur de cette Europe de la Révolution et de l'Empire français.
Alors c'était, vous l'avez rappelé justement en 1848,
un nouvel empereur qui arrive, grâce à la reconquête de la ville par l'armée autrichienne, ce nouvel empereur se méfie et se méfiera toujours du peuple, et il va régner pendant 70 ans sur un empire qui s'agrandit encore, en devenant en 1867 l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Que Dieu te bénisse, François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie.
Asseyez-vous, Rodolphe. Je vais vous donner un conseil de père. Ce n'est pas l'empereur qui parle. Défiez-vous du peuple. Je sais qu'on y trouve certains esprits éclairés. Mais le peuple est une masse. C'est cette masse qui a envahi notre palais lorsque je venais à peine d'avoir 8 ans. C'est cette même masse qui a tué ma grand-tante, Marie-Antoinette. Voilà votre peuple, le peuple auquel vous voulez donner le droit de se gouverner lui-même. Pour maintenir la suprématie du pouvoir, il convient d'admettre et d'assumer les responsabilités du pouvoir.
Eh bien, je ne vous retiens plus. Vous devez ouvrir le bal et je suppose qu'on vous attend.
Et c'est la célèbre marche de Radetzky, de Johann Strauss, ce père. Hein. Il faut rappeler qu'entre le père et le fils, qui portent le même nom, le même prénom, se sont fait connaître dans le même art. Alors il y avait une grande différence. L'un, l'auteur de la marche, lui, c'était un homme autoritaire. Ça s'entend dans sa musique.
Bah, c'est-à-dire que c'est un homme qui était du côté de la monarchie. C'était sa génération. C'était la restauration de l'autorité impériale. Donc il a fait cadeau à l'empereur de cette marche de Radetzky en 1849. Le maréchal Radetzky étant entré victorieusement dans Milan. Et alors son fils sera, bah, comme beaucoup de fils, le révolutionnaire qui sera plutôt du côté du peuple qui se soulève, qui met Metternich en fuite. Mais les deux ont un immense talent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bien sûr, on connaît surtout les valses du fils, dont le beau Danube bleu, qui était un chant religieux, un échec au début, sera particulièrement célèbre. Mais en fait, ils se sont trouvés en compétition. Et le père a même voulu interdire à son fils de jouer. Il jouait face à face dans les orchestres et la foule courait d'une brasserie à une autre.
Alors dans une ville qui, à l'époque de François-Joseph, l'a vraiment atteint sans doute son apogée, de même que l'Empire, c'est sur le plan culturel notamment, c'est la littérature qui explose, c'est la peinture avec Klimt, c'est extraordinaire, et puis c'est un brassage fabuleux de population.
C'est une population qui comprend sur le plan de la superficie 9 fois l'Autriche actuelle. Alors, comme disait Zweig, pour être un vrai Viennois, il faut être un peu hongrois, un peu polonais, un peu roumain, un peu slovène,
etc. Un peu juif, comme il était
un
aussi.
Un peu juif, absolument. Et vous avez une preuve de cette brassage culturel qu'on peut toujours vérifier. C'est sans doute la première ville au monde où on ait trouvé tous les journaux du monde entier dans toutes les langues, dans les cafés, montés sur des baguettes de pois. Donc c'est un rendez-vous culturel fabuleux, Vienne.
Et la ville de Freud aussi qui a inventé la psychanalyse. Alors, cela dit, une ville cosmopolite comme l'était l'Empire, donc fragile, qui tombe en 1918, c'est alors que le dernier des Habsbourg, Charles Ier, renonce à la couronne pour laisser la place à une république, à un pays aussi beaucoup plus petit. Hein. À ce moment-là, ce n'est plus que la partie allemande de l'ancien Empire austro-hongrois et un pays trop faible pour résister, bien sûr, aux ambitions d'un Autrichien devenu chancelier d'Allemagne. Hitler, qui détestait Vienne, où il fait son entrée le jour du rattachement de l'Autriche au Troisième Reich, en mars 1938.
À Vienne, le cortège enthousiaste précédé de musique militaire, drapeaux en terre, ont parcouru les rues dès que le scrutin fut connu. Une forêt de bras tendus, des vivats, des chœurs retentissent de partout, cependant que dans la cathédrale, un Te Deum s'élevait. Après cette cérémonie religieuse, fervente et émouvante, quel contraste les manifestations de la rue nous apportent avec les hurlements du peuple acclamant son fureur.
En tant que fureur et chancelier de la nation allemande et du Reich, j'annonce l'entrée de mon pays natal au sein du Reich allemand.
Et c'était l'entrée de Hitler à Vienne en 1938. Vienne qui cesse pour la première fois depuis 700 ans d'être la capitale d'un État, Jean Descartes.
Oui, mais Vienne qui pense prendre sa revanche de ce que Hitler appelait le diktat de Versailles, ouais. Qui a été quand même très maladroit et qui a ouvert, ainsi, on le sait maintenant, il faut le dire, un boulevard à Staline et à Hitler. Ouais. Alors Vienne, en effet, n'est plus capitale, c'est une sorte d'annexe de Berlin, je dirais, avec les traditions. Bon, nous avons entendu la marche de Radetzky, qu'on imagine toujours avec le concert du 1er janvier. Eh bien, le fameux concert du 1er janvier va naître en 1938, un 31 décembre d'ailleurs. Ce sera une forme de résistance de l'esprit viennois. C'est très complexe et c'est difficile de juger avec des opinions d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Mais il faut rappeler quand même les monumentales erreurs et les humiliations du traité de Versailles qui sont les catastrophes majeures du XXe siècle.
Et puis alors Vienne qui va être en tant que ville du Troisième Reich bombardé, subir la
beaucoup
guerre,
souffert, oui.
Être occupé ensuite par les Alliés qui arrivent en 1945, ils vont y rester 10 ans, une période assez sombre, vous le rappelez, avec, vous le disiez tout à l'heure, avec le film de Carol Reed.
Oui, tous les trafics.
Le troisième homme. Et puis alors Vienne, qui redevient la capitale d'un État souverain en 1955. On a l'impression, depuis cette époque, Jean Descartes, que Vienne, même si elle redevient indépendante, si elle devient capitale, c'est plus la même chose, évidemment, qu'à l'époque des Habsbourg. C'est presque une ville de province.
Ah, écoutez, alors une province pareille, moi je m'y installe tout de suite. Je vais vous dire, vous savez que Vienne est actuellement au premier rang pour les congrès et les réunions professionnelles dans toute l'Europe, oui. Tandis que Paris est passé au 7e rang. Bon, il y a un équipement hôtelier, il y a un art de vivre. On peut aussi bien se promener en jean, en smoking. Il y a une grande tolérance qui s'appuie sur des siècles de confrontation, je crois. Et il y a un charme viennois incontestable. On est partout chez soi. Il y a toutes les nationalités, toutes les cuisine, tous les journaux, toutes les musiques, les galeries d'avant-garde, la tradition. C'est quand même formidable que des jeunes gens se bousculent encore aujourd'hui pour danser en habit, en robe du soir. Voyez-vous, ça, je crois que la tradition est vraiment vivante. Vienne est une ville pour moi éternelle.
Et que l'on retrouve dans votre livre, Jean Descartes, le roman de Vienne, publié aux éditions du Rocher. Vous êtes également l'auteur d'un livre dont vous parlerez bientôt, je l'espère, le Dictionnaire amoureux des trains, qui paraîtra le mois prochain chez Plon. Vous avez pu entendre des extraits de Soliman le Magnifique, de Mario Tota aux éditions South Pacific Video, du Diable Boiteux de Sacha Guitry de chez René Château, ainsi que deux films disponibles en DVD aux éditions Zone 2, Amadeus de Miloš Forman et Meyerling de Terence Young. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Clotilde Thomas, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Léna Le Bourdonnec et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Comilac.